Toutes.
Après plusieurs jours de combat, les milices communistes finirent par arrêter, écrouer et abattre un grand nombre d'anarchistes et de membres du POUM, accusés d'être des renégats à la solde de Hitler. Ilia Ehrenburg, en écrivant No Pasaran, ce fut l'un des chantres de cette accusation. Le livre, comme c'est étrange, disparaîtrait plus tard de sa biographie officielle. Les communistes voulaient depuis longtemps contrôler le jeu politique et liquider de la révolution son contenu libertaire. Ils s'acharnaient depuis longtemps à discréditer par la calomnie ceux qui s'en réclamaient. Mais la calomnie est une méthode pour chochotte. Il s'agissait à présent d'être sérieux. Comment? En fusillant, pardi. C'est ce qu'ils firent. Rocher en fut désespéré. Il le serait plus encore un mois après, lorsqu'il apprendrait l'exclusion du groupe anarchiste du gouvernement régional, ainsi que la répression violente de ses membres, la dissolution du POUM et l'arrestation sauvage de ses militants, et surtout la torture et l'assassinat de leur dirigeant Andriy Snin, qui avait eu le mauvais esprit de dénoncer publiquement les procès de Moscou, lors d'une opération appelée Nikolaï, commanditée par Staline, avec la complicité du gouvernement légal. Staline, plus savant que tous les hommes ensemble, écrivit Neruda, le plus servile des poètes staliniens, disait Rocher, dit ma mère. Pour couronner le tout, des centaines de collectivités seraient dissoutes manu militari en août 37 par des unités sous commandement communiste. De tout ceci, la presse européenne ne pit pas mot. Notons qu'en revanche, la Pravda du 17 décembre 1936 avait prévenu « L'épuration des éléments trotskistes et anarcho-syndicalistes est commencée, et cette œuvre sera conduite avec la même énergie qu'elle l'a été en URSS. » Rocher apprit ces événements, los hechos de mayo, comme on les désigna, par la radio libertaire qu'il écoutait chaque matin. À leur annonce, son sang ne fit qu'un tour. Il courut jusqu'à la mairie. Il était comme un fou. Une colère folle l'emportait, le poussait en avant, faisait courir ses jambes. Sur le chemin, il ne vit personne. Il ne vit rien. Le sang battait à ses tempes. Ses jambes galopaient. Le sang de sa fureur les faisait galoper. Il fit irruption dans le bureau de Diego. Livide, haletant, les cheveux en désordre, le cœur emballé, étouffant de rage. Il ne vit pas qu'un groupe de quatre jeunes gens s'entretenait avec Diego. Il ne vit rien. Il n'entendit rien, il ne fit attention à rien, il n'eut aucune pensée, juste une envie de meurtre. Il se planta devant Diego, bien en face, et hurla « Tu n'es qu'un salopard de traître !» Et comme Diego le regardait froidement, sans parler, il hurla « Ose nier que tes copains ne sont pour rien dans les événements d'hier » « Pourrais-tu t'expliquer ?» dit Diego sans s'échauffer, d'une voix calme, détachée, uniforme, alors qu'il avait parfaitement compris de quoi il s'agissait. « Tu n'es qu'un sale traître !» hurla José. « Tu me répugnes !»« Fais gaffe à toi !» menaça Diego, froidement, posément, sans élever la voix. « Tu pourrais te repentir de tes paroles. » Les deux hommes se toisèrent. « Si tu n'étais pas le frère de Monse, je te... » Diego ne termina pas sa phrase. Deux des jeunes gens présents dans le bureau se souviendraient 7 mois après, lorsque le drame entre les deux serait commenté de mille manières, du ton menaçant sur lequel Diego avait proféré ses paroles et de l'avertissement prémonitoire qu'elles contenaient. « Ne t'avise plus jamais de prononcer devant moi le nom de ma sœur !» hurla José. Et il sortit à grands pas du bureau sans voir les visages stupéfaits des quatre jeunes gens qui assistaient Diego. Dévala la calle del Sepulcro, sans voir les réactions de ceux qui le croisaient, effrayé par l'expression folle, sauvage, désespérée de son visage. Puis il grimpa chez lui, sans voir le regard paniqué de sa mère, qui l'attendait, inquiète, en haut des escaliers, et qu'il poussa si violemment qu'elle faillit tomber à la renverse. Après son départ, Diego, le visage sans expression, juste un tressaillement au coin de la bouche, demanda à ses assistants de le laisser seul. Il voulait réfléchir. Diego avait vaguement caressé, après son mariage, le projet de gagner José à sa cause. Il croyait que sa révolte était une petite fièvre qui se pouvait guérir. Il croyait du reste que toutes les révoltes sont des petites fièvres qui se peuvent guérir.